Histoire de peinture. Aujourd'hui, quelques déclics personnels.
Le fait de photographier moi-même les tableaux, hein, de me rapprocher pour faire ces détails dont je ne savais pas éventuellement s'y contenaient, donc conduit à une sorte de, on pourrait presque dire, de micro-histoire, hein, de micro-histoire de la peinture, en tout cas une histoire très rapprochée et qui implique évidemment de renouveler les instruments de l'histoire faite de loin, et aussi peut-être d'en constituer de nouveau. Alors l'instrument à renouveler, c'est d'abord, bien sûr, l'iconographie. L'iconographie, c'est-à-dire cette technique bien établie, très sûre et absolument nécessaire à l'interprétation des tableaux, consistant à identifier un personnage ou un thème à travers un certain nombre d'objets. L'exemple célèbre de Panofsky, c'est Judith, hein, celle qui a décapité Holoferne, et Salomé, dont la danse entraîne la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Comment distinguer Judith de Salomé? Eh bien, parce que Judith, toutes les deux peuvent avoir une tête coupée dans un plat, mais comment savoir qu'on a affaire à Judith ou à Salomé? Eh bien, parce que Judith aura une épée, hein, parce qu'elle a elle-même décapité Holoferne, alors que Salomé n'aura pas d'épée. Et donc, le plat ne permet pas d'identifier l'une ou l'autre, mais l'épée est un signe, on va dire, distinctif ou diacritique, permettant d'affirmer qu'on a affaire à Judith et non pas à Salomé. Alors, ce texte de Panofsky est bien connu, il est même fondateur, hein, des essais, c'est dans l'introduction aux essais d'iconologie, mais Jean Wirth s'est empressé, bien sûr, de montrer qu'il y avait des Salomé avec l'épée. Enfin, c'est pas ça le problème, hein. Bon, mais disons, l'iconographie, c'est distinguer par des caractères très précis un personnage ou un thème d'un autre. Bon, eh bien, quand on fait l'histoire de près, ou quand on fait l'histoire des écarts, des anomalies, on est obligé à un moment de se dire, oui, mais Judith et Salomé. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Il y a des tableaux dont le principe, c'est très précisément de fonctionner sur le fait que c'est Judith et c'est Salomé. Et à ce moment-là, non pas de dire, ah, ben, le peintre n'a rien compris, mais de comprendre qu'il y a une raison pour lesquelles, ou des raisons pour lesquelles, il y a une telle condensation dans le tableau entre ces deux figures. Et donc, l'iconographie qu'il s'agirait d'élaborer à ce moment-là, n'est plus une iconographie des distinctions d'idées, ou de thèmes ou de motifs, mais une iconographie des associations d'idées. C'est-à-dire comment s'associer les idées, et comment associait-on les idées au XVIe siècle, au XVe siècle, au XVIIe, etc. Bon. Évidemment, le projet peut se faire hérisser, hein, les cheveux sur la tête de plus d'un historien, parce qu'on risque l'arbitraire complet, puisque non seulement déjà je faisais l'éloge de l'anachronisme, mais maintenant je commence à faire l'éloge, en fait, de l'association d'idées, qui est le contraire, hein, de la démarche apparemment historique, objective et sérieuse. Le seul problème, c'est que l'association d'idées a toujours existé, et que l'historien, s'il la néglige, bah, passe à côté d'œuvres spécifiques qui fonctionnent précisément sur cette association. Et donc, l'idée, c'est, pour en faire un instrument d'histoire, c'est d'éviter l'anachronisme dans l'association d'idées, hein, et par ailleurs, et ça va bien sûr ensemble, de se dire que on n'associe pas n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des règles d'association, des principes d'association. Alors, par exemple, éviter l'anachronisme, eh bien, c'est se dire quelles associations d'idées étaient possibles, vraisemblables, étant les conditions sociales historiques de production. Là, je pense à un travail qui est en cours, et qui sera, je l'espère, bientôt terminé, que fait une étudiante, sur un tableau de Véronèse, qui est à Lyon, hein, et dont le titre a changé, hein, au cours des siècles. Tantôt, c'était Bethsabée et David, tantôt, c'était Suzanne et les vieillards. Alors, c'est très intéressant, parce que, alors, Bethsabée, je rappelle rapidement, Bethsabée étant, enfin, ça doit être vu par David, eh bien, David était pris de désir pour elle, et il y aura l'adultère entre Bethsabée et David. Suzanne, prenant son bain, point commun, est aperçue par des vieillards lui font des propositions malhonnêtes, et elle refuse, et donc les vieillards la dénoncent, hein, en disant, on l'a vu, elle a commis l'adultère. Bien, donc deux histoires, dont l'une aboutit à l'adultère, celle de Bethsabée, et de l'autre, au contraire, aboutit à la dénonciation d'adultère, mais en fait, il n'y a pas eu adultère. Or, le Véronèse, le tableau de Véronèse à Lyon, eh bien, il est à la fois Bethsabée et Suzanne. Comment peut-on le dire? Eh bien, parce que c'est bien Suzanne, puisque elle est à côté d'une fontaine et il y a un vieillard debout à côté d'elle. Donc c'est le thème de Suzanne et les vieillards. Mais il n'y a qu'un vieillard. Alors il y a toujours plusieurs vieillards. Et donc à ce moment-là, c'est Bethsabée et David, hein, et non pas David, il n'y en a qu'un de David. Mais le problème, c'est que David n'est pas vieux, Hein, il est jeune. Deuxièmement, ce n'est pas David qui est venu auprès de Bethsabée, c'est son jeune messager. Donc, ce n'est pas David, donc ce sont les vieillards, donc c'est Suzanne. On n'en sort plus. Hein, c'est-à-dire, alors, donc, à ce moment, on dit, bon, ou bien on dit, Véronèse n'a pas compris la différence entre Bethsabée et Suzanne. Il y a peu de chance, hein, parce que d'abord, ce n'est pas lui qui a déterminé l'iconographie du tableau, c'est le commanditaire. Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles, dans ce tableau, très volontairement, on a confondu, hein, mélangé, et ça devient inextricable, le motif Suzanne avec le motif Bethsabée. Mais le travail que fait en ce moment Joséphine Le Folle, tout à fait remarquable, c'est un long travail, hein, même sur un seul tableau, eh bien, elle s'est d'abord fondée sur la culture vénitienne des deux thèmes. Que représentait à Venise au XVIe siècle le thème de Suzanne et le thème de Bethsabée d'un côté? Quels étaient les points communs entre les deux? Et ensuite, quels étaient les commanditaires du tableau? Quelles raisons pouvait-il y avoir, hein, dans les familles? C'est un mariage, c'est un tableau de mariage. Alors, évidemment, le thème de l'adultère, tableau de mariage, Joséphine Le Folle est au bord de faire une démonstration magnifique, hein, des troubles de l'iconographie reposant sur les troubles du regard et des troubles de la peinture elle-même. Bon. Donc, si vous voulez, l'association d'idées ne se fait pas n'importe comment. Si on veut faire une iconographie historique des associations d'idées, il faut éviter l'anachronisme et, au contraire, chercher à le fonder sur les pratiques sociales, concrètes et culturelles de l'époque. Et puis, le deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est mais comment être sûr que, dans ces associations d'idées, on identifie bien le motif de l'association, hein, ce qui fait qu'il y a condensation. Eh bien, moi, ce que j'aurais tendance à appeler, il s'agit de trouver le plus petit dénominateur commun entre les thèmes associés et qui est le noyau même où se trouve la cause, hein, on va dire la motivation de la condensation. C'est-à-dire, il faut le trouver, ce plus petit dénominateur commun, dans la culture du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rassemble, Suzanne et Bethsabée, sera évidemment le problème de l'adultère et de la justice, hein, s'il y a aucun doute. Parce que si Bethsabée a commis l'adultère, oui, mais de là, sa maison de David, et finalement, viendra la Vierge et viendra Jésus. Et donc, Bethsabée peut devenir une figure de l'Église, hein, donc ça devient extrêmement compliqué. En revanche, que l'idée qu'il y ait des points communs, des enchevêtrements, des chevauchements, hein, entre les thèmes, eh bien, c'est une idée qui est très, on va dire, moderne, mais aussi qui est tout à fait fondée en histoire. Et j'ai été très frappé quand, travaillant justement sur les problèmes d'association d'idées, de passage, de condensation, de confusion, relu à ce moment-là un texte de Vincenzo Cartari qui est de 1556, Les images des dieux des anciens, donc un manuel d'iconographie publié à Venise en 1556, et j'ai trouvé cette phrase que je vous cite, donc 1556, « Il n'y a pas à s'étonner, dit Cartari, de voir que les dieux des anciens sont enchevêtrés les uns avec les autres, qu'un même Dieu, écoutez ça, c'est formidable, qu'un même Dieu montre souvent diverses choses et que divers noms signifient parfois une même chose. » Bon, moi, pour rien, ça fait, excuse-moi de parler vulgairement, ça fait tilt. Ça m'a rappelé immédiatement un texte, hein, que j'avais lu depuis longtemps et que je suis allé revoir. Et ce texte, ben, je vous le cite, « Non seulement les éléments du rêve sont déterminés plusieurs fois par les pensées du rêve, mais chacune des pensées du rêve y est représentée par plusieurs éléments. » Des associations d'idées mènent d'un élément du rêve à plusieurs pensées, d'une pensée à plusieurs éléments. Alors, je veux dire que là, c'est le deuxième, hein, outil. Hein, c'est non plus seulement renouveler les outils traditionnels, mais forger ou trouver de nouveaux outils. L'idée de l'iconographie d'association d'idées m'a mené à l'idée de condensation. Le texte de Cartari me renvoyait à Freud. Et donc, parmi les instruments nouveaux, enfin, dont l'histoire de l'art, l'histoire rapprochée de la peinture, doit se servir, c'est évidemment pour moi les 40 pages que Freud consacre au travail du rêve dans l'interprétation des rêves, et en particulier ce qu'il dit sur la surdétermination. La citation que je viens de faire, elle caractérise la surdétermination des éléments du rêve. Alors, ça peut paraître, et ça, j'ai toujours pensé ça, quand je faisais des cours en premier cycle, il y a très très longtemps, je disais aux étudiants, le premier texte à lire, c'est les 40 pages de l'interprétation des rêves consacrées au travail du rêve. Et pourquoi, hein, pourquoi aller chercher le travail du rêve, hein, pour interpréter la peinture de la Renaissance? Ça peut paraître complètement arbitraire, parce que une chose est certaine, le travail du rêve est lié à la psychanalyse, hein, et est lié à l'idée d'inconscient. Or, ce qui m'intéresse, moi, n'est pas l'inconscient du tableau. Ce qui m'intéresse, c'est l'élaboration du message à l'intérieur du tableau. Et pourtant, le travail du rêve, tel que le définit Freud, avec ses quatre opérations de travail du rêve, est pour moi central, parce que il y a une raison, enfin, la raison est très simple, c'est que fait le rêve, tel que Freud le décrit? Freud dit précisément, le rêve ne pense pas, il travaille. Hein, c'est une formule, il ne pense pas, il travaille. Et qu'est-ce qui fait le rêve? Qu'est-ce que fait ce travail du rêve? Bien, il transforme des pensées normales, dit Freud, exprimables dans un langage tout à fait discursif normal, en rébus. Il dit c'est un rébus à travers des images. C'est-à-dire que le rêve transforme une pensée normale en rébus d'images. Bon, que fait un tableau classique ? Un tableau classique a un sujet, il a un texte de départ de référence, hein, et il transforme ce texte de référence en image. Bon. Si on n'a pas le texte, si on a perdu le texte, le tableau devient un rébus. On n'y comprend plus rien. Et j'aimais beaucoup, justement, faire ces cours de premier cycle en université, parce que, étant donné la perte de culture générale, hein, et de la culture religieuse en particulier, des étudiants sortant du secondaire, ils ignoraient tout de tout. Donc c'était magnifique, parce que devant une annonciation, par exemple, moi, si je vous dis annonciation, ou si je pense annonciation, je sais tout de suite de quoi il s'agit. C'est la Vierge, l'ange Gabriel, Dieu le Père, la colombe, le Saint-Esprit, le vase de lys, etc., etc. Je peux décliner, hein, l'ensemble des motifs. Mais j'adorais vraiment faire des exposés ou des examens sur annonciation, parce que parfois le fait que l'étudiant ou l'étudiante ne sache rigoureusement rien, donner des descriptions... Magnifique, je me rappelle une description d'une annonciation de Filippino Lippi où l'étudiante, en toute bonne foi, disait « Bon, ben, c'est un tableau où à gauche, il y a un jeune homme richement vêtu avec des ailes. Bon, c'est peut-être un ange. » Bon, c'est déjà magnifique parce que, bon, d'abord, c'est un archange. Enfin, peu importe. Bon, mais bon. Et ensuite, et ce jeune homme a l'air de rendre hommage à une jeune femme vêtue d'un très beau manteau bleu. Elle ne savait pas qui c'était, c'est une jeune femme vêtue d'un manteau bleu. Au-dessus, à gauche... Bizarrement, il y a un vieillard accoudé sur un nuage. Bon, c'est exact, hein. Et là, magnifique, peut-être Dieu. Bon, c'est exact. Mais l'idée que sur l'annonciation, bon, si on a perdu, hein, le texte de référence, une image est un rébus. On n'apprend rien par une image, hein. L'image sert à rappeler quelque chose. Mais si on ne sait pas ce que dit l'image, elle ne l'apprend pas, hein. C'est pas la peine. D'ailleurs, des allégories aujourd'hui, on a toujours perdu le sens, hein. L'allégorie de Pyrrhodikos, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et à moins de trouver le texte, mais je crois qu'en fait, c'est élaboré pour qu'on sache pas ce que ça veut dire. Donc, je reviens à mon fil. Effectivement, la peinture transforme un texte, hein, une pensée normale, le transforme en figures, et en figures qui sont énigmatiques. Et le travail du rêve, les opérations décrites par Freud pour rendre compte ce travail que fait le rêve, que nous pouvons constater nous-mêmes chaque nuit, ou j'espère en tout cas plusieurs nuits par semaine, eh bien le rêve ne fait rien d'autre. Et donc, que transformer des pensées en images. Et donc, les opérations de condensation, prise en considération de la figurabilité, déplacement, etc., élaboration secondaire, elles sont très opératoires en ce qui concerne l'analyse de la peinture, c'est-à-dire du travail propre de pensée de la peinture. Alors, très bien, entre, hein, qu'y a-t-il par ailleurs entre le texte de référence, hein, et l'œuvre achevée, hein, comment voir ce travail se faire pour l'interprétation des rêves? C'est l'écoute du récit du rêveur et la mise en relation de plusieurs récits du rêveur, les uns avec les autres, etc., etc. Comment faire avec le tableau, puisque comme on sait, la peinture est muette, hein, comment faire donc pour réussir à reconstituer ce travail? Eh bien, là, j'emprunterai un terme à Hubert Damisch, c'est dans Fenêtre jaune cadmium, qui est un très beau terme qui est un terme en fait que Damisch emprunte lui-même à Poussin, sans cacher du tout, et il dit que entre le texte de source et le tableau final, il y a les pensées, mais plus précisément les pansements, mais pansements avec un E, pansements, P-E-N, hein, les pansements du peintre, c'est le terme de Poussin. Entre le texte et le tableau, il y a les pansements du peintre. Et ces pansements du peintre, que veut dire Poussin ? Eh bien, c'est la réflexion du peintre, mais réflexion conduite le pinceau ou la plume à la main, ce sont les dessins préparatoires. Et par exemple, dans l'enlèvement des Sabines, eh bien, il y a les deux versions de l'enlèvement des Sabines de Poussin, il y a 3 ans entre les deux tableaux, première version intéressante, et puis 3 ans plus tard, Poussin fait une deuxième version tout à fait différente de la première. Bon. Et entre les deux, on a une série d'une dizaine de dessins préparatoires qui nous montrent comment progressivement Poussin passe d'une première idée, c'est toujours le même texte, hein, c'est le même texte, c'est l'enlèvement des Sabines, absolument le même, mais il passe d'une première idée à une deuxième idée à travers un travail de transformation radicale de l'image, hein, où il y a des déplacements, prise en considération de la figurabilité, toutes les opérations du travail du rêve peuvent se retrouver à l'intérieur de ce travail de Poussin. Donc ça, je dirais, c'est le premier instrument nouveau, si vous voulez, hein, que une histoire de l'art rapproché pourrait utiliser, devrait utiliser. Le deuxième, qui me paraît également très intéressant pour ce travail, c'est, et là c'est à Louis Marin, je dois dire à la fréquentation de Louis Marin que je le dois, c'est vraiment de réussir à travailler la représentation classique de peinture à l'aide de la théorie classique du signe, et en particulier telle que l'exprime la logique de Port-Royal. Louis Marin a écrit des textes admirables sur ce point, je ne vais pas les résumer, c'est une richesse extrême, je dis simplement 2 points qui m'ont paru essentiels dans le travail de Marin et pour ma propre réflexion. C'est premièrement le « je pense » qui accompagne toute représentation, et donc ça c'est un point qui me paraît essentiel si on veut analyser la perspective et le fonctionnement de la perspective dans la peinture classique. Et le deuxième point dans cette théorie classique du signe, qui m'a fallu, je veux dire, beaucoup de temps pour comprendre, hein, c'est l'idée que le signe se présente représentant. C'est-à-dire qu'un signe n'est pas seulement la représentation de quelque chose, il est en même temps, conjointement, la présentation de cette représentation. Et dès lors que je perçois le signe, hein, le tableau, se présentant comme représentation, la conséquence de la pensée de Marin est admirable, je dirais, d'une efficacité extraordinaire pour voir les effets de peinture classique. Dès lors que le tableau se présente comme représentation, eh bien, la transparence transitive, pour aller jusqu'au bout des termes, hein, du signe s'opacifie. Hein, l'effet réflexif du fait que le tableau se présente représentant opacifie la transparence de la représentation. Il y a pour conséquence, sur moi ou vous, hein, sujet regardant, eh bien que vous avez un effet de sujet. Vous vous percevez vous-même comme sujet regardant. Vous avez un effet d'affect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien abstrait. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que le bord d'un tableau, hein, est toujours un élément très très intéressant. Parce que le bord de tableau, ou bien c'est le cadre, mais qui était conçu pour être la bordure, comme on disait, et comme dit d'ailleurs Poussin lui-même, hein, mettait un peu de bordure autour du tableau, ou bien le bord du tableau, c'est le bord lui-même en tant qu'il est peint comme bord. Et dès lors que le bord est peint comme bord, le tableau se présente comme représentation. Et quand vous commencez, si vous commencez à regarder ce qui se passe, hein, sur les bords de tableau peints comme bord, vous verrez que à ce moment-là, vous aurez des surprises sur l'intensité de l'investissement signifiant théorique, bon, certainement, mais aussi très souvent émotif ou affectif de ce bord de tableau. Un des plus beaux exemples, mais l'analyse en sera un peu longue, c'est la Pietà de Giovanni Bellini qui est à Milan, à la Galerie Brera, et où sur le rebord du tableau, le bord peint devient un rebord qui semble être le bord du tombeau du Christ, mais en fait c'est pas le bord du tombeau du Christ, parce que rien ne nous indique tombeau du Christ. C'est là que Giovanni Bellini a mis sa signature, sous la forme d'un cartello, très précis, qui est une citation déformée d'une élégie de Properce. C'est la seule signature de Bellini où il met Bellini avant Giovanni, hein, Bellini, Giovanni, et le prénom Giovanni est juste en dessous de la main du Christ, et du Christ mort, et une goutte de sang a coulé de la main du Christ sur le nom de Giovanni, le prénom, mais en fait en italien le nom, hein, nome, hein, Giovanni de Bellini. Il se trouve que qui tient Jésus au-dessus, là du côté où il y a marqué Giovanni, eh bien c'est Saint Jean, San Giovanni. Et c'est sur ce bord, rebord du tableau, que le tableau se présentant comme représentation, exerce, alors trouble la transparence de la représentation, évidemment, exerce un effet d'affect absolument extraordinaire. Et ça, si vous voulez, on ne peut percevoir ce genre d'enjeu que si on regarde de très près, évidemment, et si on a aussi des outils permettant de théoriser ce qu'on voit, parce que sinon, on se contente de voir et on ne sait pas. Il faut voir, hein, mais il faut aussi avoir l'outil permettant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de théoriser ce qu'on voit. Ce qui était peut-être beaucoup plus évident pour les gens du XVe siècle. Hein, mais que nous avons perdu cette façon de regarder, c'est avec notre regard d'aujourd'hui, nos questions et nos outils qu'on peut avoir une chance, non pas de retrouver le regard, mais de retrouver les questions, hein, que posait ce regard.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Christian Chazalon, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau.